En descendant du Sinaï, Josué fut le premier à percevoir les cris de réjouissance des Israélites devant le veau d'or. L'indignation de Moïse et sa sévérité à l'égard de ses frères lui firent comprendre la gravité du péché, en particulier le péché d'idolâtrie. Dans le sanctuaire, Josué apprit à consacrer du temps à l'Éternel, à rechercher sa communion et à marcher dans sa présence avec humilité et soumission. Parmi les 12 espions partis explorer le pays promis 40 ans plus tôt, seuls Josué et Caleb comprirent que le Dieu vivant était au milieu de son peuple et il chasserait lui-même les habitants du pays. Donc, le cheminement de Josué est celui d'un homme obéissant, fidèle, humble, sage, constant et courageux. Son exemple est là, dans la parole, pour nous encourager. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Y a-t-il de plus beau témoignage que cela ? Suivre Dieu et le mettre à la première place était la devise de cet homme de foi. Donc, Dieu pouvait ainsi lui confier de plus grandes responsabilités. Sur l'ordre de Dieu, Moïse avait posé sa main sur Josué et l'avait déclaré participant de sa dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. À présent, c'est l'Éternel lui-même qui va élever Josué aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse. Vous savez, un peu comme Paul l'avait fait pour Timothée, hein, en association avec les anciens d'Éphèse. Le parallèle est frappant entre ces deux hommes mûrs, Moïse et Paul, et ces deux hommes plus jeunes, Josué et Timothée. Quatre hommes choisis et conduits par Dieu, les plus anciens, passant leurs responsabilités aux plus jeunes. C'est un passage de témoin, un modèle de passage de témoin que l'on retrouve dans toute l'histoire de l'Église et jusque dans l'histoire de notre Église locale, entre notre ancien pasteur Roger et notre nouveau pasteur Paul. Je ne veux pas faire rougir Roger et Paul en les comparant à Moïse et Josué, mais il y a là des modèles à la fois de leader de l'Église et de passage de témoin d'une génération à l'autre. Alors, écoutons l'encouragement de Paul à Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Solennellement désigné comme chef d'Israël, Josué a donc la redoutable tâche de conduire et d'installer le peuple dans le pays de la promesse. Il a cette tâche, et ce n'est pas simple. C'était un homme de foi et d'action. Ses espions, il avait envoyé des espions à Jéricho, et ils lui ont rapporté que certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même que tous les habitants du pays tremblent devant nous. Ce rapport était le feu vert de Dieu pour la conquête du pays. Alors, Josué mit tout le monde en route avec armes et bagages, et le peuple parcourut ainsi les 11 kilomètres, c'est pas bien grand, hein, séparant Sittim du Jourdain. C'était l'occasion pour tous de voir le fleuve de très près. Avec la force et la vitesse du courant, qui était grossi à cette période-là par la fonte des neiges du mont Hermon, au nord du pays. Et pendant ces 3 jours, le peuple aura tout le loisir de se rendre compte de son impossibilité de franchir le Jourdain par ses propres moyens. Il arrive ainsi dans nos vies que Dieu veuille nous laisser dans l'impasse, face à nous-mêmes et à nos limites, de telle manière que lorsqu'il interviendra, nous mesurions bien que c'est lui qui nous a sortis de l'impasse et non pas nous. Voyez. Deuxième point du message, c'est la consécration du peuple d'Israël avant sa marche avec Dieu. La consécration du peuple d'Israël avant sa marche avec Dieu. Au soir du troisième jour, le peuple reçut de nouvelles instructions. Au lieu de suivre la colonne de nuée qui les avait guidés jusqu'alors, ils devaient maintenant marcher derrière les sacrificateurs portant l'arche de l'Alliance. Comme cette arche représentait Dieu lui-même, c'était donc bien l'Éternel lui-même qui conduisait son peuple en Canaan. Donc Josué, il commanda à son peuple, au peuple de se sanctifier. C'est le même ordre que leurs ancêtres avaient reçu de Moïse avant de recevoir les commandements de Dieu. Cette sanctification consiste à se purifier dans le but d'être prêt à être utilisé par Dieu pour ses projets. La sanctification est l'œuvre de Christ à la croix. Jésus-Christ nous a rachetés pour que nous soyons saints. Mais Dieu nous demande aussi de nous purifier nous-mêmes en confessant nos péchés et en les abandonnant. Cette sanctification est un processus qui dure toute la vie. Et dans sa grâce, c'est Dieu lui-même qui produit cette sanctification. Car c'est son esprit qui l'a placé au moment de notre conversion, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ainsi, et seulement ainsi, Dieu peut intervenir en notre faveur et nous faire entrer dans le pays de sa promesse. N'y a-t-il pas des moments dans nos vies où nous croyons entendre Dieu alors que c'est lui qui nous attend? Est-ce que vous attendez depuis longtemps une réponse à vos prières, une délivrance, une direction, une opportunité, une réconciliation avec un proche? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Revenons au Jourdain. Le peuple devait marcher à une distance d'à peu près 1 kilomètre de l'arche. Cette distance entre l'arche et le peuple permettait au plus grand nombre de la voir. Mais surtout, elle rappelait au peuple la sainteté de Dieu. C'est pour cela que Josué demande au peuple de se sanctifier avant de marcher derrière l'arche. Frères et sœurs, Dieu nous invite ce matin à nous approcher de lui, mais il veut que nous le fassions avec un cœur purifié. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10. Le peuple d'Israël suivait Dieu qui marchait devant lui. N'est-il pas rassurant de savoir que Dieu nous précède, et aplanit le chemin devant nous? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, nous dit le Proverbe 3. Non seulement le peuple devait se sanctifier et suivre l'arche, c'est-à-dire Dieu, mais de plus, le peuple devait se tenir dans l'expectative d'un événement exceptionnel qui allait bientôt se produire. Il est dit au verset 5, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Sur l'ordre de Dieu, Moïse avait posé sa main sur Josué et l'avait déclaré participant de sa dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. On voit ça dans Nombre 27. À présent, c'est l'Éternel lui-même qui va élever Josué aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, nous dit le texte. Et tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Le respect de tous lui fut effectivement acquis dès le lendemain, un respect fondé sur la certitude de la présence de Dieu à ses côtés. Josué expliqua au peuple que le miracle prouverait la présence effective du Dieu vivant parmi eux, contrairement aux idoles impuissantes des païens. Et il ajouta qu'après avoir ouvert un chemin dans le Jourdain, Dieu lui-même chasserait les sept peuples installés en Canaan. Il savait, Josué, que cette conquête à vue humaine était une folie. Les peuples qui vivaient dans ces territoires étaient de terribles guerriers. Aucune stratégie d'homme ne pouvait lui garantir le succès. Seule l'écoute et l'obéissance à la voix de Dieu pouvaient lui donner l'assurance de la victoire. Le Dieu vivant est au milieu de vous, dit verset 10. Dès lors, le mot d'ordre de la conquête, la promesse et le gage de la victoire sur leurs ennemis. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur du ciel, de la terre et de tout l'univers. Il est le Seigneur de toute la terre qui allait faire traverser ce peuple, ce fleuve à son peuple. Et cette promesse est pour nous aujourd'hui. Le Dieu vivant est au milieu de nous ce matin. En confiant son mandat à ses disciples, Jésus leur dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Paul le redit avec force dans Romains chapitre 8 « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Troisième partie du message, c'est le passage du Jourdain ou la vie nouvelle en Christ. Le jour de la traversée du Jourdain, jour qui devait marquer l'entrée d'Israël en Canaan, il arriva, enfin. Donc le peuple démonta ses tentes et se mit en route à la suite des Lévites qui portaient l'arche. C'était l'époque de la moisson, printemps, et le Jourdain, il avait les rives inondées et il offrait un spectacle peu rassurant. Les preuves de leur foi s'annonçaient sévères. La peur les ferait-elle reculer? Ou irait-il de l'avant avec la conviction que la promesse divine s'accomplirait vraiment? Alors, les événements se précipitèrent dès l'instant où les sacrificateurs, porteurs de l'arche, mirent les pieds dans le courant boueux et tourbillonnant. L'eau, en amont, cessa de couler. Les différents affluents arrêtés net n'entrèrent pas dans le Jourdain, mais amassèrent leurs eaux en amont à la hauteur d'une ville nommée Adam. Le lit du fleuve se trouva asséché sur une surface assez large pour permettre le passage des gens avec leurs bêtes et leurs bagages. Ce phénomène surnaturel a toutes les caractéristiques d'une intervention divine. Tout s'est passé selon les prédictions de Dieu. Au moment prévu, quand le fleuve était en crue, les eaux ont été retenues pendant plusieurs heures, voire peut-être un jour entier, on ne sait pas. Le lit du fleuve s'est asséché brusquement. Et l'eau a recommencé à affluer aussitôt après le passage du peuple et des sacrificateurs. Avec cette traversée, l'Exode s'est terminé comme il avait commencé. Cette traversée a concerné une nation d'à peu près 2 millions de personnes. Elle a glorifié Dieu, exalté Josué, encouragé le peuple d'Israël et semé la terreur parmi les Cananéens. Elle garde surtout une valeur symbolique exemplaire dans l'histoire d'Israël, tout comme dans la vie des chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons voir cela dans la prochaine section de mon message. Nous parlerons des applications spirituelles dans nos vies de chrétiens aujourd'hui. Et nous allons voir les significations et applications spirituelles de cette traversée. Pour Israël, le Jourdain séparait le désert du pays de la promesse. La portée spirituelle du Jourdain est toutefois plus étendue. Pour la saisir, nous avons besoin de revenir à l'histoire d'Israël écrite pour nous. Il est dit à 1 Corinthiens, chapitre 10, « Car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Le projet de Dieu était de faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte et de l'introduire dans le pays qui lui donnait un héritage. Et la délivrance de l'esclavage en Égypte est caractérisée par deux grands événements que vous connaissez tous, la Pâque et la mer Rouge. Et il est bon d'en rappeler leur signification pour comprendre celle de ce troisième grand événement qui est la traversée du Jourdain. Alors, la Pâque, le premier événement. Alors on voit ici que Dieu se présente comme juge. Dans le livre d'Exode, il est dit, il dit à Moïse et à Aaron, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Le sacrifice de l'agneau pascal répond aux exigences du jugement divin, et l'agneau, agneau de Dieu, symbole de Christ, devait être égorgé entre les deux soirs. Cette même nuit, il est dit en Exode 12, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le sang de l'agneau, symbole du sang précieux de Christ, était placé sur le linteau et sur les deux poteaux des maisons entre le peuple pécheur et un Dieu juge. C'est l'expiation. L'apôtre Pierre nous explique ainsi l'expiation. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc au milieu de cette nuit solennelle du jugement, l'Éternel vit le sang et passa par-dessus les maisons des Israélites en les épargnant du jugement. Le mot Pâque signifie précisément passer par-dessus. Le sang, en Exode 12, il est dit, vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. La Pâque est donc la figure de la mort de Christ comme notre substitut sous le jugement de Dieu. Alors le deuxième événement, c'est la mer Rouge. Le peuple venait d'échapper au jugement des premiers-nés, mais il était encore en Égypte, hein, sous la menace du Pharaon et de ses armées. Il fallait donc une seconde intervention divine pour délivrer le peuple de l'Égypte et de sa puissance. Donc nous avons vu que nous venons de voir qu'au moment de la Pâque, Dieu s'est manifesté comme juge. Et là, maintenant, il va se manifester comme libérateur. Et Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ils étaient en face de la mer, ils étaient coincés, ils étaient dans un cul-de-sac, ils savaient, vous voyez ? Pharaon et ses armées derrière, la mer devant, qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'a pas Dieu avec soi, on panique. Hein ? Et Moïse leur dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le peuple n'a rien à faire que d'assister à sa délivrance. Vous voyez, à la croix, Christ a pris contre lui les ennemis que nous étions entièrement impuissants à combattre. Le péché, le diable et la mort. En Égypte, l'ennemi voulait ressaisir sa proie. Donc il poursuivait Israël, l'acculant à une mer infranchissable. Et le peuple était sans armes contre l'ennemi, sans ressources contre la mort. Et il commença à paniquer. En Exode 14, il est dit, le Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte ? Si on doit mourir ici, pourquoi on n'est pas mort là-bas ? Sans qu'il soit besoin de nous mener ici, mourir au désert. Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Mais ce n'est pas là ce que nous te disions en Égypte. On dit, reviens en arrière. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. D'abord, le peuple a une bonne crainte, il crie à l'Éternel, il lève les yeux vers Dieu. Mais ensuite, il a une mauvaise crainte, il fait des reproches à Moïse, il veut redevenir esclave, il regarde en bas, à sa condition, à son impuissance, et la panique le saisit. La mauvaise attitude dans une situation qui génère la crainte, c'est de regarder en bas. De regarder à nous-mêmes, à notre faiblesse. La bonne attitude, celle qui glorifie Dieu, consiste à regarder en haut, à lever les yeux vers Dieu, à chercher auprès de lui et en lui notre force et notre secours. Alors, écoutons ce que Moïse dit au peuple paniqué. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Rendez compte. « Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Effectivement, historiquement, ils ne sont plus venus. « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Et ce mot « délivrance » se dit « Yeshua ». Le Sauveur en hébreu et Jésus en grec. Moïse dit, regardez le Yeshua, le Jésus, le Sauveur que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alors, nous trouvons dans cette scène le symbole de la mort et du jugement subi par Christ à la croix. À la croix, Christ a tout accompli pour notre salut. En Égypte, les Israélites passent sains et saufs sur l'autre bord. En cela, nous trouvons le symbole non seulement de la mort, mais aussi de la résurrection de Christ pour nous. Et c'est l'enseignement que nous présente la mer Rouge. L'armée de l'adversaire est détruite. Elle trouve son tombeau, l'armée de l'adversaire, là où nous avons trouvé le chemin, nous. Toute frayeur est passée, nous pouvons nous tenir en paix sur l'autre rive, dans la puissance d'une vie de résurrection qui a traversé la mort. C'est la foi qui nous permet d'avoir part à cette bénédiction. Hébreux nous dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. La mer Rouge est donc aussi une figure de la mort de Christ qui nous arrache à la puissance du péché de Satan, du péché et de Satan. La mer Rouge est la figure de la rédemption. Dans leur cantique, Moïse et Israël ont chanté « Par ta miséricorde », on voit ça dans Exode 15, « Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Alors ça c'était un rappel. Maintenant on va voir le troisième événement, le Jourdain. Si à la Pâque, Dieu se présente comme juge et à la mer Rouge comme libérateur, au Jourdain, il se présente en Christ comme sauveur. Sortir d'Égypte, ce n'est pas entrer automatiquement en Canaan, loin de là. 40 années d'errance, d'incrédulité, de révolte et de péché avaient suivi ce moment de délivrance extraordinaire. Et Dieu n'avait pas été absent, loin de là. Au contraire, il avait pris soin de son peuple, malgré ses nombreuses défaillances. Cependant, le peuple était loin, très loin de vivre tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Car Dieu a bien davantage en vue pour ses enfants que la délivrance de l'esclavage du péché, même si c'est déjà beaucoup. Il désire Dieu les faire entrer dans le pays promis, Canaan. Image du repos de la foi, de la victoire sur le péché, d'une vie radicalement nouvelle vécue par la foi. Mais pour entrer en Canaan, le Jourdain est incontournable. C'est un passage obligé. Ce n'est pas sans doute pour rien que le baptême de repentance que Jean-Baptiste va prêcher et pratiquer des siècles plus tard sera un baptême dans le Jourdain. Car le Jourdain symbolise pour Josué et le peuple de Dieu la mort à soi-même, la renonciation à toute prétention humaine. Quiconque se confie en Jésus, comme Israël se fiait à l'arche restée au milieu du fleuve, quiconque se confie en Jésus ne craint pas les flots du jugement, car il est passé de la mort à la vie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. En effet, de même que seuls ceux qui portaient l'arche ont eu les pieds mouillés et que le peuple est passé à sec, seul Jésus a réellement traversé les eaux du jugement et de la mort pour que nous n'ayons plus à les subir. Le peuple qui descend rejoindre l'arche, qui est immobilisé au fond du fleuve, fait penser aux jeunes convertis qui entrent dans les eaux du baptême. Il atteste publiquement qu'il est uni au Christ dans sa mort et que sa vie d'indépendance, d'errance et de péché est terminée. Paul exprime ainsi, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors en résumé, Christ est mort à notre place pour nous réconcilier avec lui, c'est la Pâque. Il nous a arrachés à la puissance du péché et de Satan, c'est la mer Rouge. Et il nous a ressuscités ensemble pour une vie nouvelle en Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. C'est le Jourdain. En conclusion, le passage du fleuve revêt une signification biblique des plus profondes qui soient. Passer le Jourdain, c'est passer par la mort. C'est laisser derrière soi des comportements et des attitudes contraires à la volonté du Seigneur. C'est renoncer à soi, à sa mentalité, ses ambitions, ses désirs charnels, afin de se laisser diriger par Dieu. Il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16. Et puis, ce n'est pas fini. Après la traversée du Jourdain, il faut entrer en Canaan. Il y a une terre promise de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas? Une existence nouvelle qui ne ressemble en rien à celle vécue précédemment jusque-là. La terre promise est un pays merveilleux après 40 années d'exode dans le désert. Il ne faut pas cependant idéaliser les choses. Si Canaan, le pays promis par Dieu, est un pays de sources d'eau et de repos, il est aussi un champ de bataille, avec des victoires, mais aussi des défaillances et des défaites, comme dans la vie du chrétien. À lui maintenant s'approprier chacune des promesses de Dieu. Le désert du Sinaï est l'expérience du vieil homme, du péché dans la chair. Le Jourdain, c'est l'expérience d'une autre vie, d'une vie nouvelle en Christ. Non pas dans sa faiblesse et sans chute, non pas sans faiblesse et sans chute, mais avec la puissance du Saint-Esprit en nous pour nous fortifier dans la bataille et tenir ferme contre les ruses subtiles du diable. Les obstacles et les impossibilités qui se dressent devant nous font appel à notre foi, notre obéissance et notre confiance dans le Seigneur. Donc, la plus grande bataille que nous avons à livrer se trouve dans votre cœur. Êtes-vous découragé, abattu ce matin? Êtes-vous dans la pitié au moins de vous-même? Peut-être même le dégoût de vous-même? Alors levez les yeux vers Dieu. Il vous dit ce matin, comme à Josué, fortifie-toi et prends courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Soyons fidèles et obéissants, et Dieu nous donnera la foi et le courage de Josué. La consécration du peuple d'Israël marchant avec Dieu à travers le Jourdain et dans Canaan, avec l'assurance que c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. C'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Prions. Notre Dieu, nous t'adorons ce matin pour ta grandeur, ta toute-puissance, ton amour et la grâce de ton salut en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, s'il a parlé à vos cœurs à travers ce message de sa parole, n'attendez plus, recevez-le et commencez dès aujourd'hui cette vie nouvelle en lui qui vous conduira dans la vie éternelle avec lui et tous ses rachetés. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.